Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello, hello les amis, ici Pauline Aignot, j'espère que vous allez bien et je vous emmène aujourd'hui pour une nouvelle leçon. Alors vous le savez, les leçons, ce sont ces petits moments qu'on passe à deux, enfin à plus qu'à deux en réalité, parce que vous êtes maintenant assez nombreux à écouter le podcast, mais où je passe une petite demi-heure avec l'un d'entre vous pour essayer de répondre et de réfléchir avec lui ou elle à sa question. La question aujourd'hui est en l'occurrence une question de Shoneyad, qui est la fondatrice de Petite Culottée, une très jolie marque de lingerie féminine, qui me dit comment perpétuer librement le sur-mesure au sein d'une marque. Concrètement, Shoneyad se pose la question du dosage, à quel point est-ce qu'il faut laisser libre cours aux envies, aux desiderata de ses clients, et à quel point au contraire il faut un petit peu refermer les choix pour justement plus les guider, et puis aussi pour des raisons opérationnelles, bien sûr. Une question que j'ai trouvée très intéressante, et qui évidemment en tant que fondatrice de Gemio, qui est une marque de joaillerie personnalisée, me parle beaucoup. Donc on a un petit peu parlé de l'histoire de Gemio, des cheminements par lesquels j'étais passée, par lesquels j'avais pu évoluer, et j'espère évidemment de tout cœur que cela sera utile à Shoneyad et à vous tous. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Shoneyad.
Bonjour Pauline.
Écoute, je suis ravie de t'accueillir sur cette leçon. Tu connais la coutume. Il s'agit d'abord de se présenter, puis ensuite de me dire qu'est-ce qui t'amène ici, quelles sont tes problématiques du moment. De quoi est-ce que tu as envie qu'on parle ?
Merci à toi déjà de me faire venir sur ce podcast. Donc, je suis Shoneyad, l'heureuse fondatrice de la marque de lingerie française haut de gamme Petite Culottée, une marque de lingerie pour les périodes délicates permettant de maintenir l'élégance et la beauté de la femme avec singularité. Et donc, aujourd'hui, ce qui m'amène, c'est une question assez existentielle. Comment perpétuer librement le sur-mesure au sein d'une marque ?
Aha ! Et alors, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Est-ce que tu peux expliciter ? Qu'est-ce qui t'amène à te poser cette question ? Et qu'est-ce que tu veux dire perpétuer le sur-mesure ?
Alors en fait, c'est que Petite Culottée, c'est vraiment une marque qui essaie de répondre à toutes les attentes des femmes. Et donc, au fur et à mesure, on a toujours des questions en fait qui arrivent sur le sur-mesure, notamment avec les matières, la personnalisation, etc. Et justement, ma grande question, c'est comment tu arrives, toi, à perpétuer librement le sur-mesure au sein d'une marque, notamment quand on prend l'exemple de Gemio, on a vraiment la possibilité de faire du sur-mesure sur des bijoux pour en avoir sur moi au moment où je te parle. Je sais que c'est vraiment quelque chose qui est compliqué et je pense que tu es la personne la plus en adéquation pour répondre librement à cette question.
et en fait, qu'est-ce qui t'amène à te poser la question ? C'est des problématiques de production ? C'est des problématiques de marketing ? Qu'est-ce qui fait en fait que tu te poses la question ?
Mais en fait, ça va être vraiment assez large. Ça peut être des problématiques au niveau de la matière première. Notamment, on travaille le lin comme on est une entreprise normande. Donc, on peut pas forcément faire du sur-mesure avec telle ou telle matière. Une cliente qui veut de la lingerie, rose bonbon, on est sur du coton biologique, donc on peut pas faire toutes les teintures. Enfin voilà, ça peut être au niveau de la production, ça peut être au niveau aussi de l'ADN fort, de perpétuer justement ce sur-mesure au sein de la clientèle. Donc ça reste assez large, mais au fur et à mesure, ça va faire 4 ans aujourd'hui que la marque existe. C'est vraiment une question qui persiste en moi, c'est est-ce que je vais pouvoir perpétuer justement ce sur-mesure au fil des années.
Écoute, alors si ça te va, Shoneyad, ce que je te propose, c'est que je vais te parler, je n'ai pas envie que ça dure trop longtemps, mais te parler brièvement des phases par lesquelles on est passé au niveau de la personnalisation et du sur-mesure chez Gemio. Donc déjà, ça pourra peut-être te donner aussi, et je vais expliquer du coup ce qui s'est passé, ça va te donner des pistes exactement, parce que je vais te parler de nos réflexions. Je ne sais pas s'il y a une bonne réponse, et je pense surtout que c'est une question de dosage, comme malheureusement beaucoup de choses, mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que nous, quand on a lancé Gemio initialement, l'idée, c'était de faire ce que j'appellerais de la demi-mesure, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait des modèles qui étaient prédessinés par nous, Mais il y avait la possibilité par chaque client de composer finalement le bijou comme il le souhaitait en choisissant la pierre et le métal. Ça, c'est quelque chose qu'on a toujours gardé chez Gemio. Donc, en fait, ça veut dire qu'il y a quand même un motif qui est préexistant, un design qui est préexistant. Si j'ai bien compris, c'est le cas pour toi aussi. Et par contre, on peut choisir concrètement la couleur de la pierre et le métal, mais dans un panel que nous, on a présélectionné, c'est-à-dire qu'on leur dit pas, vous prenez tout ce que vous voulez. Non, c'est, il y a soit du saphir, soit de l'émeraude, soit du rubis. Enfin, voilà. Donc, il y avait quand même, on va dire, quelques guidelines. Voilà. Ce qui s'est passé assez rapidement, c'est qu'on a commencé à avoir des demandes entrantes, et c'était très tôt, hein, dans l'histoire de Gemio, deux personnes qui nous disaient, moi, ce que je veux, c'est un bijou, en gros, que j'ai dessiné. C'est vraiment, finalement, un bijou que j'ai imaginé moi. Et donc, je veux arriver avec un dessin, je veux arriver avec une idée et je veux que vous le fassiez pour nous. Et pour tout dire, au début, c'était le commencement. Hein, on n'avait pas beaucoup de clients, on n'avait pas beaucoup de ventes. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas, on peut essayer. En plus, ça va nous apprendre, nous, à mieux connaître le métier de joaillier parce que finalement, ça nous donnera des idées de design, ça nous permettra de les faire. Et donc, on a accepté de le faire. Et donc, au début de Gemio, et ça, je dirais que c'était la première et la deuxième année, on a très régulièrement accepté ce que j'appelle du 100% sur mesure, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui arrive avec une idée, comme si toi, tu vois une femme arriver et te dit « moi, je veux telle petite culotte », mais vraiment, elle la design de A à Z, elle fait le patron, limite. Et ensuite, tu la réalises techniquement pour elle. Parce qu'évidemment, ce qui se passe dans ce genre de cas, c'est que la personne, quand elle vient te voir, elle a une idée, mais c'est pas forcément techniquement exactement comme ça que ça va être réalisé. Et donc, il y a quand même toute une interprétation qui est nécessaire finalement par la marque.
Bien sûr.
Ça, on l'a fait pendant quelques temps et au bout de 2 ans, on s'est rendu compte que c'était pas notre cœur de métier. Il y a des gens qui le font et qui le font très bien, mais que nous, justement, on voulait revenir à ce que j'appelle donc plus de la personnalisation ou de la demi-mesure. Un peu comme des tailleurs, tu vois, il y a le tailleur sur mesure et puis il y a celui qui va adapter un tailleur à ta morphologie. Nous, on était plus là-dedans aussi, plutôt sur les matériaux du coup, parce que on s'est rendu compte qu'en fait, effectivement, c'est un métier de fabriquer un bijou 100% sur mesure et que nous, la manière dont on voit la joaillerie, c'est que quand on fabrique un bijou, on doit le concevoir pendant très longtemps, le tester, faire en sorte qu'il soit robuste, etc. Et que finalement, tu vois, le 100% sur mesure, ça nous permettait pas d'aller aussi loin qu'on le voudrait dans la qualité et puis dans les tests, quoi, concrètement, de fabrication du bijou. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, il était réel aussi, c'est que moi, j'ai commencé réellement à me dire, mais en fait, si jamais on est une marque, une marque, elle a des designs, elle a des produits, c'est quand même important en fait qu'elle ait une identité de produit. Si jamais tous nos clients réalisent leur rêve et font un bijou qui est leur bijou, mais finalement pas notre bijou, nous on est presque plus des fabricants à ce moment-là pour eux, ça pose problème parce qu'en fait on perd complètement l'identité produit de la marque.
Oui, l'ADN de la marque,
donc,
bien sûr.
Exactement. Et donc je me suis rendu compte, si tu veux, qu'il y avait une autre question qui n'était pas juste la question en fait de la faisabilité technique de ces bijoux sur mesure, c'était que profondément, pour qu'on soit une marque et non pas un artisan qui fabrique des bijoux pour ses clients, ce qui est hyper légitime aussi, en fait, il fallait qu'on ait nos propres designs de produits. Et donc, à ce moment-là, on a pris la décision d'arrêter le 100% sur mesure et de rebasculer donc sur la personnalisation pour, en fait, être nous garants, si tu veux, du produit, mais par contre, de laisser une ouverture au travers des pierres et des métaux qu'on choisit. Donc ça, c'est un peu le cheminement qu'on a eu. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on laisse donc toujours nos clients choisir la pierre, le métal. Donc ça, c'est de la personnalisation, on leur explique comment le faire, etc. Mais comme je te l'expliquais, en choisissant finalement, nous, les métaux et les pierres disponibles. Et chez Gemio, par exemple, il va pas y avoir forcément sur tous les produits, toutes les pierres et tous les métaux disponibles. Parfois, en fait, on fait des choix qui sont des choix produits, qui sont des choix, tu vois, artistiques, qu'on va faire et qu'on va proposer à nos clients. Si jamais il y a une demande externe qui nous dit « Ah, mais moi, j'aimerais bien telle pierre et telle pierre », bien souvent, on peut s'organiser justement pour répondre à cette demande et donc faire à nouveau quelque chose d'un petit peu personnalisé. Mais dis-toi que si jamais tu montres quand même une gamme, une ouverture de gamme, en général quand même 80% des gens, 90% des gens choisissent en fait ce que tu vas proposer. Et donc moi, j'ai réalisé quelque chose d'assez intéressant que je te partage, c'est que effectivement le problème du sur-mesure et de la personnalisation, c'est qu'on peut mettre le doigt dedans, puis le bras, puis la tête, puis les jambes. Et en fait, ça peut devenir finalement... mais tellement dans une infinité de détails finalement que comme chaque personne est unique et chaque client est unique, chacun voudrait un cas particulier. Et donc ça, c'est une possibilité. Mais je pense que le rôle de la marque, c'est précisément de déterminer ce qui, d'une certaine manière, est acceptable ou pas. Et en fait, quand je dis acceptable, c'est pas le bon terme. Ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce qui est important qu'il garde en tant que marque comme décision stratégique et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et qu'est-ce qu'au contraire, non seulement ça l'est pas, mais ça apporte de la valeur au client de faire ce choix. Et donc, nous, c'est ce qu'on fait, je te dis, en conservant, par exemple, le design et en conservant le choix des pierres et des métaux qui sont disponibles. Mais après, au sein de ces choix de pierres et métaux, les clients peuvent décider, comme ils l'entendent, tu vois, de faire leur composition. Ça a un autre avantage, c'est qu'au-delà, tu vois, de renforcer, on va dire, ton ADN de marque et de globalement savoir, en fait, pourquoi tu fais les choses, en fait, ça te permet aussi d'aider la prise de décision pour le client. Parce qu'une autre chose que je me suis rendu compte, je sais pas si toi tu l'as vécu, c'est que trop de choix, tu le choix. Et que quand il y a énormément de possibilités, mais les gens, en fait, ils passent des heures à regarder. Et au bout d'un moment, mais je comprends, franchement, ils sont paumés, ils savent plus quoi choisir. Ils disent, ah, mais là, le rouge, le rose, les machins, il y a trop de variations, ils peuvent plus choisir. Et moi, je me rappelle d'une boîte qui était hyper intéressante, qui s'appelait Made, je crois. Le nom m'échappe, je suis désolée, je le remettrai dans les notes de l'épisode, mais c'était une marque de prêt-à-porter, si tu veux, et qui faisait de la personnalisation, mais je te jure, tu pouvais personnaliser, mais la surpiqûre, le bouton, le col, mais tout pouvait être personnalisé. C'était un niveau, si tu veux, où tu avais quasiment 50 décisions à prendre pour ta chemise, quoi. Et en fait,
ouais,
au final, malheureusement,
c'est trop pour le client, en fait, parce qu'il est...
Exactement.
Il est
exactement, ce qui s'est passé, c'est que cette boîte, malheureusement, a fermé, et je le regrette parce que c'était une chouette idée. Mais ce qui s'est passé, et moi j'en avais débriefé à un moment avec l'un des fondateurs, c'était qu'il disait qu'il s'était rendu compte que trop de choix, tu le choix, et qu'il y a un moment donné où en fait les gens ne prennent même plus de décision et donc concrètement n'achètent pas, parce qu'en fait ils ne savent plus, et en plus avec tous les problèmes logistiques que ça comporte d'avoir autant de variétés évidemment à gérer.
Oui, puis en plus c'est vrai que quand tu crées un produit, tu le disais, on a la même problématique, ça prend des mois et des mois de recherche, de travail, de justement tester la robustesse, etc. Donc le sur-mesure a vraiment ses limites. Donc c'est vrai que là tu m'aides énormément, parce que je pense que tu as mis le doigt dessus. C'est vraiment le terme demi-mesure qui est important. Nous, on le voit au quotidien, on accompagne énormément les clientes à pouvoir choisir la pièce de lingerie qui lui ressemble selon justement ses besoins, que ça soit voilà, pour les menstruations, pour d'autres choses, simplement un petit caraco, voilà, etc. Et c'est vrai qu'on leur propose la personnalisation, on a une gradation qui est assez large, mais comme tu le disais, on a plus de 9 mois de prototypage, quoi, avant même les tests.
Mais c'est ça. Vous, on est d'accord concrètement. On est d'accord que concrètement, la cliente choisit au sein d'une gamme de lingerie un produit qui est préexistant, mais c'est juste qu'elle peut personnaliser la couleur, par exemple, peut-être un certain nombre de détails. Mais disons qu'elle ne va pas dessiner le soutien-gorge ou la culotte avec vous.
Oui, ça nous arrive tout de même quand même de laisser libre cours à l'imagination de nos clientes si elles veulent choisir ou nous aider. Ça nous est déjà arrivé de demander à des clientes fidèles de faire des dessins de broderie qu'elles aimeraient. Mais forcément, sur le panel de nos clients, chacune des clientes ne peut pas tout dessiner. Quand je vois rien que les dentelles et les broderies, on part d'une esquisse que je fais, qui est faite par des perceurs de carton après chez Calais, chez Noyon. Enfin, c'est impossible à faire vraiment au sur-mesure. Et on l'a fait au tout début, et justement, au bout de un an ou deux, on a un peu vécu la même chose que toi avec Gémio. On s'est rendu compte que on avait un ADN qui était assez fort très rapidement, sauf qu'on avait des clientes qui voulaient telle et telle et telle pièce, et d'autres qui avaient vraiment besoin d'être accompagnées. Donc ça, c'est aussi un choix très compliqué et assez cornélien en termes de stratégie. Et c'est vrai que je pense que ton histoire me permet vraiment de voir plus largement la chose, et surtout de mettre le mot demi-mesure et non sur-mesure sur la marque.
Bah, écoute, en tout cas, c'est pas facile, et comme je te disais, c'est vraiment une question de dosage, parce que à l'inverse, tu vois, faut être pragmatique. Au début, quand tu crées ta boîte et que t'as pas beaucoup de ventes, nous c'était le cas au début de Gémio, hein, on était quand même bien contents d'avoir quelques clients qui s'intéressaient à nous et qui nous disaient j'aimerais, voilà. Donc t'as envie de le faire, et en plus j'y vois un autre bénéfice, c'est ce que je disais, c'est que ça t'apprend quand même des choses, quoi. Enfin, tu vois, tu bosses, tu crées un nouveau produit et tout, donc c'est chouette.
Oui, et puis ça permet de voir des choses que tu n'aurais jamais fait avec tes équipes de prod, des designs, etc. Ou justement un savoir-faire que tu n'aurais pas fait avec tel métal et telle association. Donc c'est vrai que ça devait être super enrichissant pour vous, quoi.
Complètement. Et tu vois, je regrette absolument pas de l'avoir fait. Au contraire, je pense que ça nous a énormément appris. Et je pense que c'est plutôt utile au début de l'histoire d'une boîte. Et en plus, tu vois, c'est révélateur du fait que tu t'intéresses à tes clients et que tu les écoutes, ce qui est franchement le nerf de la guerre. Mais je crois que avec l'évolution de l'entreprise, des problématiques opérationnelles de plus en plus importantes, parce qu'en fait, plus tu as de volume sur tes produits, on va dire un peu plus standard, plus aussi, moins tu auras de temps aussi pour gérer ce sur-mesure. Eh bien, dans ce cas, je pense qu'il faut en fait faire des choix stratégiques, et finalement, ça revient à ça. Tant c'est des choix marketing, que ça peut être des choix opérationnels, tu vois, logistiques, financiers aussi peut-être, qu'est-ce que je garde pas.
C'est vrai que c'est super compliqué, parce que c'était là ma question, c'est notamment pour la prod, comment tu peux perpétuer le sur-mesure alors que forcément on a une production à suivre. Là on travaille avec 14 ateliers en France, On a, c'est énorme. Donc on jongle à droite à gauche entre le dentelier, le brodeur, le tricoteur, celui qui confectionne, le contrôle qualité, etc. Et c'est vrai que plus les demandes sont conséquentes, plus le sur-mesure commence à être vraiment très compliqué. Donc on a bien évidemment nos best-sellers qu'on confectionne comme des petits pains tous les mois, mais voilà, la question persistait en moi parce que je me disais vraiment, mais comment je peux perpétuer le sur-mesure qui est apprécié par les clients, notamment juste une personnalisation, tu vois, sur une pièce, avec un surnom, des initiales, etc. Parce que les clients, ils sont très attachés à ça aujourd'hui. Tu dois le voir au quotidien, notamment dans une alliance, quand il y a,
quand gravures,
y a un nom ou une date, c'est indispensable. Donc c'était vraiment ça ma question, c'est comment tu peux perpétuer le sur-mesure, la personnalisation sur des pièces, alors que la demande est hyper hyper intense, c'est que tu voilà.
Bah, pour le dire simplement, les clients voudront toujours plus de personnalisation. Il faut que tu l'aies en tête. Et donc ton rôle d'entrepreneur, et là je te résume en deux mots ma pensée, ton rôle d'entrepreneur, c'est de décider qu'est-ce qui, d'une certaine manière, compte vraiment pour eux, parce qu'en réalité, c'est normal. Ils sont clients, ils aimeraient avoir tout. Peut-être que ça n'est pas possible et peut-être surtout qu'il y a des choses qui ont plus de valeur en fait pour eux. Et donc, ça serait intéressant d'ailleurs que peut-être tu fasses des études clients pour comprendre qu'est-ce qui a plus de valeur. Peut-être que justement, ce sont ces messages, ces broderies écrites. Tu vois, comme nous, par exemple, les gravures, on a compris que c'était absolument indispensable de les garder. Et oui, c'est du travail en plus, mais en fait, c'est indispensable. À l'inverse, avoir 150 pierres différentes, même à un moment donné, on avait imaginé qu'on pourrait personnaliser non pas uniquement une pierre, mais ce qu'on a appelé pendant un moment le multi-pierre chez Gémio, où tu pourrais sélectionner si tu veux avoir un sélecteur avec plusieurs pierres. Là, on a réalisé que l'effort que ça allait nécessiter de notre côté, tant au niveau technique sur notre site internet qu'au niveau des approvisionnements, qu'au niveau des interactions avec nos ateliers, serait complètement surdimensionné par rapport à ce que ça apporterait aux clients. Et donc, il y a vraiment, si tu veux, un arbitrage permanent à faire en histoire de personnalisation et de sur-mesure, qui est qu'est-ce qui a de la valeur apportée pour le client. Et à l'inverse, je pourrais donner d'autres exemples de choses où on a accepté d'aller plus loin dans la personnalisation. Par exemple, on propose différentes qualités de saphir parce qu'on s'est rendu compte que ça, même si beaucoup de travail pour nous, peut-être que tu en as bénéficié.
Exactement. Parce que,
et tu vois, est un exemple merveilleux que ça a énormément de valeur parce que une pierre, c'est quand même unique et que tu as envie de pouvoir la choisir. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que nos clients peuvent les choisir en boutique. Et pendant longtemps, on a résisté à la tentation de le faire parce qu'on se disait, c'est trop compliqué. Et ben, on a fini par se dire, OK, il faut qu'on le teste. Et donc, on l'a testé à petite échelle. Et quand on a vu à quel point les clients étaient heureux, si tu veux, de ça, et ça générait des ventes, on s'est dit, OK, on va l'implémenter. Et je te dis, à l'inverse, il y a plein d'autres choses de personnalisation. Personnalisation des écrins, personnalisation, enfin, de plein de choses où on s'est rendu compte que la valeur pour le client, elle existe, mais elle est inférieure aux difficultés que ça procure pour nous. Et donc, c'est à ce titre, si tu veux, qu'on fait le choix de ne pas tout personnaliser. Donc, ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que du coup, ça n'est rien d'autre qu'une démarche de connaissance client et de connaissance de ton entreprise et de finalement ce que tu peux faire ou tu ne peux pas, une fois de plus, au niveau financier, au niveau opérationnel, au niveau technique aussi. Et c'est un travail de toute une vie parce qu'en plus, là où je veux pas te faire peur, mais du coup, t'es en train de mettre le doigt dans un bel engrenage intéressant, c'est qu'en fait, en plus, ça peut changer et que peut-être que les besoins de tes clients maintenant ne seront pas les mêmes dans 5 ans parce que, les gens changent, l'air du temps change, le marché change, peut-être que tes produits auront changé aussi. Donc moi, je dirais qu'il faut que t'aies en permanence à l'esprit que, quel est le bon dosage? Tu dois te poser la question en permanence, quel est le bon dosage? Est-ce qu'il faut que je rajoute ça? Et ça, une petite, tu vois, un état d'esprit de test peut être intéressant aussi. Tu te dis, j'ai un soupçon que peut-être, cet élément pourrait être personnalisé et ça pourrait apporter de la valeur pour mes clients. Hop, comment est-ce que je fais pour le tester à petite échelle? Le tester à petite échelle. À l'inverse, tu te rends compte que ça marche pas, tu le retires. Et donc, je pense qu'il faut que tu le vives non pas comme une crainte et une contrainte, mais comme presque un jeu de te dire, le monde m'appartient. C'est moi qui décide, il faut que je vois qu'est-ce que les clients aiment, qu'est-ce que je peux faire et que j'essaye de jongler, si tu veux, en permanence avec ça. Et c'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas de recette, c'est que à part te dire que je pense que fondamentalement, tu dois écouter tes clients et ensuite faire l'arbitrage de qu'est-ce qui est en fait à forte valeur ajoutée pour eux et réaliste pour toi ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses, je te dis, où les clients vont te dire que c'est important pour eux, mais en réalité, ça ne l'est pas tant que ça. Et toi, tant mieux parce que ça serait très complexe à mettre en place. Donc, il faut aussi, tu vois, avoir ce discernement vis-à-vis des clients et accepter, en fait, de faire des choix, même si on aimerait, bien sûr, pouvoir répondre à tous leurs désiderata.
Ok, ouais, très bien. Écoute, très, très clair, parce que c'est vrai que c'était assez compliqué pour moi, parce que c'est vrai que au sein de Petite Culottée, on essaie déjà que ça soit vraiment totalement unique, avec des dentelles et des broderies qui sont créées pour la marque. On dépose toutes nos dentelles et broderies, donc ça c'est déjà assez unique. En lingerie, c'est incroyable. Il y a quatre ans, c'est vrai que quand j'ai rencontré mes ateliers, j'ai eu la chance que les deux grands, les plus célèbres de France, me disent oui avec mes minimums de quantité, etc. Ça c'est déjà vraiment incroyable et les clients, on sent que elles sont vraiment fanas de ça. Et c'est vrai que ça peut être très intéressant de justement voir quel est le bon dosage et toujours garder en tête que on a beau l'impression que ça peut être important le packaging ou telle chose, alors qu'en fait ça sera derrière un infime détail qui leur plaira davantage quoi.
Et pour terminer peut-être sur ce point, vraiment avec la croissance de ton entreprise, et je te le souhaite, tu vas forcément aller vers quand même une rationalisation, si tu veux, de tes produits. Tu vas à un moment donné voir émerger des produits dans tes dentelles qui seront des produits best-sellers, qui vont prendre une grande part de ton chiffre d'affaires.
Ah oui, oui.
C'est quelque chose de naturel.
Ça, je le vois déjà, tu vois, au fur et à mesure. Là, comme ça va faire 4 ans, forcément, on a vraiment des best-sellers que les clients souhaitent. Les produits changent aussi. On a toujours les mêmes qu'il y a 4 ans, mais il y a les tendances évoluent, les besoins évoluent. Ne serait-ce qu'en 4 ans, donc j'imagine qu'au fil des années, c'est de plus en plus.
Ça risque d'être encore plus le cas, mais du coup, ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est qu'il ne faut pas que tu aies peur de laisser de côté des choses qui, à un moment donné, ont été utiles dans l'histoire de ta marque, de la même manière que le sur-mesure pour nous au début de Gémeo était utile dans l'histoire de notre marque. Et il faut accepter de faire des choix et de dire non à ça, parce qu'il faut toujours que tu gardes en tête que choisir, c'est renoncer, et que tout ce que tu fais, par exemple de sur-mesure ou tu vois de choses qui vont vraiment dans une personnalisation presque trop importante, eh bien c'est du temps, c'est de l'énergie et c'est de l'argent que tu ne consacres pas à autre chose. Et donc ça, il faut quand même bien le garder en tête, que ce delta, si tu veux, d'énergie, tu pourrais le consacrer peut-être à appuyer encore plus sur tes best-sellers, encore mieux les marketer, de telle sorte que tu en vendes encore plus. Et ça, moi, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, mais me rendre compte que même, tu vois, au niveau des produits, avoir trop de produits n'est pas une bonne idée, parce qu'une fois de plus, les clients se plantent et ils ne savent plus, ils sont perdus. Mais en plus de ça, finalement, c'est du travail de l'entretenir, parce qu'il faut s'assurer que les photos sont encore au goût du jour, il faut changer les textes, il faut que les prix soient à jour. Enfin, c'est du travail. Et donc, souvent, on se dit, ah non, mais c'est pas grave, je le laisse, en tout cas, ça tourne tout seul. Mais c'est faux, ça ne tourne jamais tout seul. Et donc, mieux vaut ne pas avoir quelque chose qui vivote plutôt que l'inverse.
Ok, super, très bien. Merci beaucoup, en tout cas, pour tous ces conseils-là.
Merci, Shoniane. Écoute, je te souhaite évidemment tout le meilleur. Alors, rappelle-moi si jamais on veut retrouver ton site. Donc, c'est lespetitesculottées, c'est ça .com.
C'est petitesculottées.fr.
D'accord, petitesculottées.fr, je le mettrai dans les notes. Écoute, merci en tout cas pour cette question qui était challengeante, mais intéressante. et je te souhaite bien sûr tout le succès. N'hésitez pas, chacun d'entre vous, à aller faire un tour sur le site de Shoniane, aller voir ce qu'il en est. Et puis pourquoi pas lui faire un petit coucou et lui dire si ça vous plaît. En tout cas, je te remercie d'avoir passé ce temps avec moi.
Merci à toi, Pauline.
Et voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette leçon vous a plu. J'ai pour ma part passé un très bon moment. Si ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à diffuser cet épisode, bien sûr, autour de vous, sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram et j'en passe. Et puis pourquoi pas un peu de bouche à oreille, de vive voix, ça marche aussi. Et puis surtout, si vous souhaitez postuler à une leçon, eh bien c'est très simple. Vous pouvez me contacter sur mes réseaux sociaux, Pauline Legno sur Instagram, sur LinkedIn, Pelegno sur Twitter. Et puis pourquoi pas avec hello@paulinelegno.com. On répond à toutes vos questions. Merci à toutes pour votre attention et puis je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.